Quête de cinéma. On est chez Bar Philippe, compositeur et créateur de la plupart des musiques des films de Robert Kramer. On est avec David Yon et on va discuter de musique au cinéma, de musique dans les films de Robert Kramer. On est sur Radio Galère 88.4. Vous écoutez la création sonore de Bar Philippe Petrucciani sur le film Route 1 de Robert Kramer.
Yes, sir.
Yes.
Robert
Kramer. Donc on est quelle date? On est le 9 mars.
C'est ça.
2018.
Oui.
Nous sommes à la chapelle de Sainte-Philomène.
Oui.
Pugéville.
Pugéville dans le Var.
Ouais, Pugéville dans le Var. Alors on avait envie de venir vous rencontrer pour discuter notamment de votre travail avec Robert Kramer.
Oui.
Donc, la première question, c'est comment vous vous êtes rencontrés?
C'est un rapport avec mon rencontre avec le cinéma. Et que je vais remonter un peu plus loin que Robert. C'est-à-dire, on va dans les fins des années 60 à Paris. Où j'ai joué dans un quartet de free jazz comme ça, et où Alain Corneau était assistant à Marcel Camus sur un film qui s'appelle L'été sauvage. Et donc ils étaient dans le montage, dans la pré-production de ça, et ils sont venus au concert, qui était au Centre américain, dimanche après-midi, comme ça. Donc Corneau avait emmené Camus au concert, parce que lui il tenait d'utiliser le free jazz comme le film de la musique du film, comme pour le BO de film qu'ils allaient tourner. Ils n'avaient pas commencé, c'était pas tourné, chercher la musique, c'était pas tourné encore. Ils sont venus après le concert, on se rencontrait, je ne connaissais pas personne dans le groupe qu'on le connaissait, il se présentait, etc. On a discuté de ça, possibilité, musique de film. Je ne savais plus Camus et Corneau, il voulait. Et ensuite, Camus me demandait si je pourrais avoir le temps, prendre le temps de jouer un petit rôle dans le film. Et j'acceptais ça, je l'ai fait comme ça. Et c'est dans ce travail qui était en 69. J'ai rencontré Juliette Berthaud qui tournait dans le film, Willy Lubchansky qui était le cameraman, et donc un peu les gens à Paris, dans la Nouvelle Vague, dans les marginaux de Nouvelle Vague, comme ça, et on est devenus amis, comme ça, pendant le tournage, et on se voyait, ben, je vivais à Paris à l'époque. Et non, pas encore. Ça, c'était juste après que j'étais à Londres. Bon, j'arrivais à Paris. Il y a quelques années à Paris, je les ai vus, j'ai travaillé avec eux. Donc Juliette a tourné dans Guns. Et dans le montage de Guns, et le producteur, c'était Hélène Vacher, que je ne connaissais pas non plus. Hein. Je ne suis pas quelqu'un du cinéma. J'aimais bien ces gens-là, ils étaient intelligents, on s'amusait bien ensemble. Je les emmenais parfois dans les projets musicaux, Juliette. Donc, Et il voulait qu'il y ait une musique de film. Et Robert avait jamais fait une musique de film. C'est les musiques dans ces films américains comme ça sont des choses réalisées sur place. Il n'y a jamais une post-production de musique. Il était contre ça. Il haïssait la musique de film. Il trouvait ça dégueulasse. Et le jeune militant, le film doit raconter. On n'a pas besoin de musique. Non, je ne veux pas. Ils ont insisté, et finalement, apparemment, l'histoire est que Juliette m'a raconté, c'est, si vous voulez, si j'ai une musique de film, je veux une basse. Et Juliette Hélène, elle a dit, si tu veux une basse, je connais le bassiste. Et il a dit, ok, je suis d'accord pour le rencontrer. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. C'était par Juliette... par Alain Corneau. Et donc, c'est marrant dans le sens des développements des personnages, les années après qui suivaient ça. Mais...
Et donc, cette première rencontre, comment elle se passe alors?
Ah ben, c'était très bien, ils étaient en montage, ils avaient déjà pas mal monté. Donc, je suis allé dans la salle de montage avec Robert et la contrebasse. Comme ça, et commencer à me montrer des segments comme ça, me demander qu'est-ce que tu feras là? Qu'est-ce que tu feras là? Et là, moi je ne suis pas musicien de musique de film, donc c'était la découverte, l'invention complètement, et on continuait comme ça, et je me souviens plus ce que je disais, et lui disait. Ouais, d'accord. Je pense. Et finalement, j'avais un peu d'herbe, je sors l'herbe, j'ai roulé un joint et on a fumé ensemble. Et comme ça allait un peu mieux après. Et là, on arrive à la scène dans Guns où il y a la mère de Juliette qui est mourante. Et Juliette est dans la chambre avec elle. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu feras là? Et je disais, tu vois la fenêtre, je ferai une musique comme si quelqu'un sur une autre planète regardait ce qui se passait là et donnait ses impressions. Il a dit, you got it. Tu peux faire le film, tu peux faire la musique, c'est bon, on y va. C'est
Et vous,
un
c'était...
autre regard, c'est ça qui l'a fait clic. Et c'est à partir de ça qu'on a travaillé les 20 ans qu'on a travaillé ensemble, comme ça. Un autre regard sur le film. C'était là dans le sens que lui, il avançait. Bah, on a fait tellement pas des façons, des manières de travailler, mais des modus operandi qui développaient à travers les années, comme ça. Mais finalement, c'était. Ok, bah, moi j'ai fini avec le film, maintenant tu fais ton film. Et là, je le fais mon film, je le redonnais, et après il a fait son film. on travaillait comme ça. Moi, par exemple, je suis pas allé dans le mixage, dans les films. Le temps a fait, tu sais, le temps dans le monde de production musicale et la production de cinéma. Cinéma, c'est complètement différent. Moi, c'était des époques où j'étais très occupé, j'avais beaucoup de travail. Et par exemple, un mix, ça se fait quand ils sont à la fin de montage. Tu traînes jusqu'à ce que le pro dise, non, non, il n'y a plus, je ne peux plus, il faut terminer là. Je te paye encore 3 jours, je ne sais pas quoi, mais là, tu vois. Et il faut prendre le mix, ça se fait peut-être dans 2 semaines, dans 3 semaines. Tu vois? Bon, moi j'étais prêt avec la musique était faite, etc. Mais moi j'étais ailleurs pendant les mix, en concert, tu vois, ou autre chose, comme ça. Et ça, c'était juste les circonstances, les coïncidences comme ça. Et finalement, j'ai dit, c'est beaucoup mieux comme ça que lui il fait son film sans moi. Que moi, je ne suis pas là à dire, oui, mais attends. Et donc, Et parfois, je n'étais pas content avec ce qu'il a fait, quoi. Mais là, on a travaillé comme ça.
Mais c'est-à-dire que vous faisiez la musique à partir du montage fini ou à partir de séquences qui vous montraient...
Comme je disais, on a fait tout là. Parfois, on n'a jamais fait un film, on avait parlé de ça, que moi je fasse d'abord la musique et ensuite lui fait le film à partir de la musique. Ça, on n'a jamais fait. Et là, c'était un problème de ses créneaux de lui, c'était pas pour trouver de l'argent de production pour un film comme ça. Et moi, je n'avais pas non plus les moyens de le produire, de le trouver, la production pour ça non plus. Donc, on ne l'a jamais fait, mais on avait fait, je lui ai donné des choses, la plupart du temps, au fur et à mesure, donc, parfois de l'écriture, je lui ai fait des petites maquettes, comme ça, j'ai donné des choses. Et pendant qu'il commençait à monter, je donnais des maquettes et des choses. Par exemple, avec Route 1, justement, comme ça, le montage était très long. Oui, parce qu'ils avaient tellement de rushs que c'était très long à monter. Hein. Mmh. Première version était 8 heures. Voilà, quand il dit « Ok, j'ai terminé », eh ben, ils n'étaient pas trop d'accord pour 8 heures. C'était, je pense, Thierry Garrel qui était le plus influent dans le producteur.
Ah oui.
Richard, je veux dire, le film d'ici était... Bah, je ne sais pas, je pense, oui, le film d'ici était vraiment le producteur principal, mais ça dépendait tellement sur la vente de Arte que Thierry Garrel, il avait beaucoup à dire, oui, ça. Là. Oui. Comme d'habitude, quoi, in the business. Yeah.
Et sur Cité de la Plaine, par exemple, vous avez travaillé comment?
Pour
Cité de la Plaine.
Cité de la Plaine. Bah, finalement, je l'ai fait après qu'il est parti, quoi. Mmh. Ouais.
Donc là, c'était différent.
Ouais, c'était différent. Et c'était vraiment de le faire après. Mais il y avait des choses faites après. Diesel, par exemple. J'avais deux fonctions dans le film parce que là, la production voulait un peu un futuriste, donc il y avait des sons à inventer. Et comme c'était une production commerciale, comme ça, il y avait un poste, il m'a pu avoir un poste comme l'éditeur du son. Et comme ça, j'ai passé beaucoup de temps à fabriquer de sons. Pour le bon son et la musique après. Et la musique après. C'était une catastrophe royale, humaine.
J'ai jamais pu voir le film en tout cas.
J'ai pas de copie de ça. Ça doit exister quelque part en DVD, mais j'ai.
Mais il a fait une émission radio, non, à partir de ce travail-là, non?
Oui. Ouais. Oui. On a fait ça ensemble, oui. Il avait gardé les bandes de son. Là, C'était Olivier qui avait fait le film. Hein. Je pense bien, Olivier Schwab.
Ouais, c'est avec lui qu'il a travaillé la plupart de ses films.
Oui. Ouais. Oui. Yeah. Ils travaillent très bien ensemble, oui.
Et Julien Cloquet aussi?
Oui, mais c'était plus tard, pour pouvoir utiliser le studio à Paris.
D'accord.
Il y avait de moins en moins de connexion, il n'avait pas évolué avec l'âge pour aller vers une autre forme, avec les autres productions, etc. Et le côté commercial, ça ne l'intéressait pas. C'était pas, il n'avait pas besoin, il n'avait jamais tombé dans le piège de l'argent. Et donc, il n'avait pas besoin de jouer le jeu, parce que sinon, tu n'as pas des films, et sinon, tu n'as pas d'argent. Mais ça diminuait au niveau des moyens pour produire, quoi. Qui était un peu normal avec l'évolution du temps, la scène en général qui change, etc. Mais moi, je ne suis pas quelqu'un de cinéma, donc je ne peux pas parler de cette évolution, vraiment. Je l'ai vécu avec Robert, mais c'est tout bête. Et il y a des fois, les choses à la dernière, quoi, 2 ans de sa vie, à partir de Cities of the Plain, à partir de quelques films qu'il a fait après ça, on n'a pas collaboré du tout. Comment ça, il les a fait dans son coin, comment ça. Et moi, je ne me souviens plus quelle grande occupation j'avais, que je ne courais pas après. On se voyait toujours. Et beaucoup à cause des familles, à cause de notre amitié avec Erica, et entre ma femme Mary et Erica, et Kija, c'est quelque part la petite fille de ma femme, voilà. Parce qu'elle avait quoi, 5 ans quand on les a connus. Mmh. Oui. Et donc le mélange tout le long entre travail, amitié et famille était présent, quoi. Mais ça venait aussi de l'époque, de nos années 60, aux États-Unis, et comment ce qu'on avait vécu là-bas, qu'on a un peu transplanté ici. Quoi,
vous avez vécu les années 60 aux États-Unis?
Oui.
Ouais.
Moi, je suis californien.
Californien.
Oui, et j'ai immigré à New York en 62. Et donc, j'étais à New York les années 60.
D'accord. Et vous étiez aussi dans des groupes politiques comme Robert
Non, pas du tout, non. Non, j'étais...
La musique
La musique est reliée avec le mouvement de free jazz. Donc, il y avait, surtout chez les Noirs aux États-Unis, l'élément de Hey Man. Voilà, ça va pas.
Albert Ayler, et un peu.
Oui, je fréquentais, je connaissais, je jouais avec Archie Shepp, par exemple. Archie était, quand il avait les paroles, donc avec les journaux ou autres, il était très militant. Donc, c'est un homme bien intelligent, et on connaissait les poètes, etc., etc. Mais moi, étant blanc, je ne faisais pas partie de leurs activités. C'est les blancs n'étaient pas invités. Hein. Mmh. Oui, il y avait tout le côté blanc avec qui allait, mais ce n'était pas les musiciens. Mmh. C'était les étudiants.
Et pourquoi vous avez quitté les États-Unis?
Je n'ai pas quitté, j'ai commencé à venir en Europe avec des tournées avec des groupes dans le jazz contemporain. Les gens commençaient à me proposer des choses ici, et à un moment donné, j'avais pris la décision d'aller à Londres après une tournée pour 2 mois. Je laissais mon appartement à des gens à New York, le chien et tout. Et les 2 mois sont devenus 4 mois, sont devenus 8 mois, sont devenus... Tu peux pas rester. Par exemple, des choses comme ça, d'être au centre américain et d'être proposé de jouer dans un film et de connaître Cournot et qui ouvre tout un truc qui n'aurait jamais passé aux États-Unis, je ne pense pas. À New York, j'ai gagné ma vie comme contrebassiste, mais le parti création était. Création rémunérée était. Très, très petit, comme toujours, aux États-Unis, oui, pour la création. Hein. Et aussi, c'était le contraire.
Mmh. Ouais. Parce que Robert, c'est un peu aussi pour ça qu'il est venu en France, c'est qu'il n'arrivait plus à produire ses films. Enfin, il avait besoin d'argent parce qu'il avait un enfant et qu'il cherchait comment pouvoir produire ses films.
Je ne sais pas. Je ne peux pas dire que parce qu'il avait besoin d'argent. Mais... Il était connu ici par ses films.
Donc, oui, il était reconnu.
Dans le cahier du cinéma, quelques. Et je ne sais pas comment c'est passé, mais il avait la proposition donc, de venir faire un film pour Hélène Dagé, donc Guns. Ça, c'était pas lui qui a marchandé. Mm. C'est une proposition qui est venue à lui. Mm. Non, qu'est-ce que c'est cette histoire-là? J'ai jamais demandé, je ne sais pas. Je peux pas vous dire. Mais là, c'était pas, il faut que j'aille en New York, en Europe pour travailler parce qu'il n'y a plus d'argent ici avec le changement de... Surtout le prix des pellicules. Parce qu'ils avaient des pellicules pas chères dans les années 60. Là. Yeah, pour faire tous ces trucs comme ça. Et les shoots, ils ont fait beaucoup avec les shoots. Et ça, avec le prix de l'argent qui augmentait, le prix des pellicules a augmenté. Et c'était foutu pour les marginaux.
Et puis il y avait un cinéma art et essai en France qui existait moins aux États-Unis, peut-être un circuit de financement, de diffusion pour un cinéma non commercial. En tout cas, dans les entretiens, c'est ce que Robert écrit. Il pensait qu'en France, il allait pouvoir plus développer son cinéma personnel librement.
Oui,
quoi.
Oui. Ouais. Mais il faut demander à Erika. Au moins, il faut que moi, j'ai demandé à Erika. C'était quoi le déclencheur
Non, mais c'est vrai que c'est Hélène Vager. Oui. C'est qu'il y avait un projet aussi de faire un collectif de cinéma avec Raoul Ruiz, Thomas Sarlane et Hélène Vager de production.
Oui.
Et petit à petit, il a rencontré Richard Coppens, qui est devenu son producteur.
Oui, ça c'est sûr, oui.
Et donc il a commencé à... Ouais, finalement, il a vécu en France... combien de temps il a vécu? De 79 à 99, du coup, ouais. Parce qu'il est venu en 79, 80, quoi.
Oui, c'est ça, oui. Ouais. C'est ça, oui. Comme c'est 80, oui. Ouais. Mais on a commencé à 79, oui.
Et vous, alors, pourquoi c'était magique entre le travail entre vous et Robert Kramer? Qu'est-ce qui fait que votre rapport à la musique a rencontré son rapport à l'image et que les deux ont pu créer une harmonie artistique?
On est de base, de nature et d'expression artistique, on était très différentes. Oui, et je pense que le enracinement pour Robert de culturel qu'il trouvait avec moi, avec nous, parce que nous on a des enfants aussi, donc c'est pas juste quelques personnes, c'est tout un troupeau, voilà. Ça donnait quelque chose de familier dans le sens culturel avec lequel il pourrait travailler. Je pense sérieusement qu'il a aimé ce que je faisais. Et moi, comme je dis, je ne suis pas musicien de musique de film. J'ai jamais espéré être ça. J'ai jamais cherché à être ça, qui est principalement une affaire de business. Pour être un musicien de musique de film, c'est plutôt les contacts et les contrats et les agents et tout ça que le contenu musical. Et c'est pas péjoratif quand c'est compositeur non plus, hein, ce que je dis là. C'est, mais si tu veux faire ça, il y a certaines recettes, quoi, tu vois, à respecter, qui sont dans le business. Et donc je faisais vraiment mon film avec Robert. Comment ça? En venant, comment ça a touché moi, au lieu de qu'est-ce qu'est l'image, et l'image a besoin de quoi?
Thank you.
comment ça touche moi et comment moi j'ai réagi à ça. Je fais mon film. Et c'est comme ça, je pense, qu'on a pu se toucher. Parce qu'après, comme je disais, dans le montage, je veux dire dans le mixage, bah, il y a un tiers, parfois la moitié que j'ai fait qui n'est pas utilisé, qui est par terre. Comment ça? In the cutting room, on the floor. Mm. Yeah. Qui ne me gênait pas du tout, parce que moi, je ne sais pas que... C'est pas que j'ai un produit à vendre, et donc il ne veut pas, il le massacre, et le, non, c'est... c'est mon travail, on ne peut pas faire ça avec mon travail, pas du tout.
Et petit à petit, vous compreniez qu'est-ce qui le touchait plus dans votre musique que d'autres, ou pas?
Je ne pense pas. Je ne pense pas, non, je suis toujours resté à la... Parce que la composition, moi je suis improvisateur, donc plutôt. Hein. Plutôt, c'est-à-dire la composition spontanée, comme ça. Et donc dans le travail de composition, le peu que j'ai fait, dans le plus grand parti, c'est avec Robert, mais ce n'est pas le seul que j'ai fait. Il y avait dans les époques, dans le jazz, on composait, quoi, là, comme, dans le free jazz, on composait. Etc. Aujourd'hui, je ne compose plus, c'est rare que ça m'arrive. Mais j'ai remarqué que c'est le même processus. Sauf que avec le spontané, ça passe beaucoup par mon instrument. Donc, et mes rapports avec l'instrument, comme ça, même si c'est mon instrument en rapport avec d'autres instruments. Là, ça passe beaucoup comme ça. Et quand c'est la composition à table, comme ça, sur le papier, à donner le papier ou faire aller enregistrer ça, c'est les mêmes fontes de l'oreille, les mêmes fontes de où viennent ces choses. Comme ça, c'est les mêmes fontes. Mais le travail de fixer les choses, ensuite aller l'enregistrer, comme ça, c'est très différent. C'est très pénible. Et ça ne m'intéresse pas.
Et du coup, quand alors Robert vous montrait une étape de film,
oui.
Vous le regardez comme ça sur une télé ou dans une salle?
Ça a commencé en salle avant que c'était possible pour lui de me donner des copies VHS. Mmh. Mais à l'origine, par exemple, avec Guns, il n'y avait pas de VHS. Même aujourd'hui, bon, c'est tout différent, hein, mais là. De faire le rapport, mais c'était un effort pour fur et à mesure. Par exemple, avec on arrive à 10 ans plus tard avec Guns, donc là on échangeait avec VHS. Oui.
Et vous regardez et vous prenez des notes sur votre émotion, ou c'est une fois que le film est fini?
C'est ça, c'est ce que j'entendais, oui. Oui, oui.
Et vous preniez des notes ou...
Oui.
Ouais.
Oui.
Et des notes de musique ou des notes écrites?
Oh, parfois des esquisses sur le papier manuscrit, oui. Oui, oui, oui.
De notes de
oui, 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 oui.
De notes de musique.
Yeah, yeah.
Et après, avec l'instrument, vous repensiez au film pour voir... Alors,
comme je disais, ça allait dans beaucoup de sens. Parfois, j'ai travaillé des choses sans le mettre sur papier parce que... C'était un rapport avec ce que je sais, donc ce n'était pas la peine de l'écrire. Par exemple, avec Guns, travailler avec Michel Petrucciani, John Sermon, que je connaissais très bien. Michel, je connaissais bien, plutôt humainement que musicalement. Mais je savais bien qu'il n'aimait pas lire. Ce n'était pas un grand lecteur, mais il n'aimait pas lire. Mais travailler à l'oreille... très rapide comme ça. Donc les choses que j'avais composées, confectionnées pour que lui, il les joue comme ça, je les jouais pour lui. On avait la possibilité d'enregistrer avec l'image pour qu'elle n'était pas le cas tout le temps là, avec les productions. Et donc avec Michel, comme ça, les parties, surtout les parties solo, comme ça, là, je l'ai joué, je ne suis pas pianiste, mais je pourrais le faire entendre ce que j'avais en tête. Et puis il dit un peu dans ces sens-là, oui, c'est ça. Non, oui. Et ensuite, on joue avec l'image. Mmh. Et comme ça, j'ai dit, yeah, c'est presque ça, ou c'est ça, ou c'est presque ça, ou non, c'est pas du tout ça. Et de retravailler jusqu'à ce que lui comprenait. Et lui, il était très ouvert parce qu'il n'était pas un musicien de musique de film non plus. C'était son première expérience, finalement, de faire ça. Et là, il était ravi. Bon, il était génial comme musicien. Il était ravi de faire... Et l'amitié. Pour l'amitié. Et les autres aussi, Pierre Fabre, le percussionniste, John Sermon, j'avais besoin de très peu écrire. Il y a le premier thème, le générique du début, le générique de fin... Oui, je les écris. Comme ça, c'est tu gagnais du temps, quoi. C'est pas chacun avait sa partition. Quoi. Je suis pas contre la partition, mais c'était pas la principale. La partition, c'est un aide, c'est tout.
Yeah. Et le travail que vous avez fait avec Robert, que vous aimez le plus, est-ce qu'il y en a un dont vous êtes le plus content ou je sais pas ou que ça.
Plus content, non,
ou celui c'est... que vous aimez le plus, avec qui, lequel vous avez un rapport plus d'émotion.
Ouais, il y avait tellement de choses. Like, par exemple, Route 1 était tellement immense comme boulot. Normalement, on faisait les enregistrements avec le mixage correspondant. Dans deux jours, trois jours, là on a pris 15 jours pleins, donc de presque jour et nuit. De faire ça. Donc la préparation d'un film de 4 heures, c'est immense, tu ne peux pas toucher là-dedans. J'avais le film, j'avais fait un énorme carnet de dessin, les grands formats comme ça, papier de dessin comme ça, avec tout le film, là, et qu'est-ce qui se passait comme ça. Avec tout numéroté, tout comme ça, savoir où on va, où on est, où on va, et se retrouver après avec les partitions qui avaient le même code, etc., pour pouvoir le faire, quoi, comme ça. Et donc, un énorme travail comme ça était fascinant à faire. Moi, j'aimais beaucoup à le faire. Et ensuite, de pouvoir enregistrer. De tout faire à partir de ça, ordonné, complètement organisé dans la chose, mais avec l'aspect artistique bien en main. Et où, qu'est-ce que je pensais d'autre film, où par exemple Walk the Walk, là j'ai beaucoup aimé parce qu'j'avais les moyens pour aller dans un vrai studio. Moi, j'ai emmené, pour la seule fois qu'on a travaillé ensemble, la production musicale avec l'éditeur avec lequel j'ai travaillé depuis très très longtemps, la boîte, quoi. Et donc, on a pu faire ça dans un très bon studio, comme ça, dans des bonnes conditions, avec des musiciens top. Pas que les miens, ils n'étaient pas top, ils étaient aussi des gens que je connais bien. Et je me souviens avec Jean-Pierre, qui a fait les mix de la plupart des films de Robert, comme ça. J'étais là pour les premiers moments, et il a dit « Ah, enfin, quelque chose bien enregistré, quelque chose de professionnel. Ah, oh, enfin !» On a fait ça, tu sais, économiquement, avec des gens, c'était toujours utilisable, mais il y a cette différence entre la production pas chère et celui qui est top of the line.
Et Robert, il est venu en studio pendant l'enregistrement ou pas? Ou c'était...
Oui, mais pas pour... juste pour le plaisir, pas pour travailler. Ce que on a fait, et là ça se passait ici, en parlant de la vie ici, en été, quand il était ici beaucoup, je travaillais sur un disque en solo pour le même éditeur que je parlais, là, ECM. Et je proposais à Robert, il a accepté de le faire. Moi je faisais des maquettes son que je lui donnais. Et on était ici, hein. Et lui, il partait comme ça, il avait son écouteur, machin, et là, il m'a raconté l'histoire de ce que je jouais, comme ça. Et on a fait un disque ensemble, comme ça. Et jusqu'au point où il est venu avec moi en studio, il a pris quelques photos, mais c'était plus pour sa présence qu'autre chose. Mais le producteur aussi, c'est quelqu'un qui aime beaucoup, qui a travaillé beaucoup avec le cinéma, qui connaissait le cinéma de Robert, il est content qu'il soit là. Et il n'y avait pas question qu'il amène une caméra, et qu'on fait un clip ou je ne sais pas quoi, des séances. Non, il est venu comme ça, c'était en Allemagne. On était ensemble, on est rentrés ensemble avec les bandes quand c'était terminé. Pour que lui, je le demandais à lui aussi de me faire les liner notes. Donc, on travaillait avec les en vinyle, c'était avant le CD. Et donc, il y avait la place pour écrire. Et qui, lui, l'écrit. Comme ça, sous l'expérience ou ce qu'il voulait. Et donc, au fur et à mesure, qu'est-ce que c'est ce disque, c'était un genre de voyage et tout le graphique, etc. C'était un plan de où passer ce voyage. Et donc, on arrive à Paris et il m'a demandé, il a pris son vieux Olivetti, comme ça, il a dit, bon, raconte-moi l'histoire donc, de ce truc d'abord. Donc je l'ai raconté, il a tout pris, comme ça, terminé, pop, hop, il a dit, ben voilà ton texte.
Rapide alors.
Ah putain, bon c'est sur le disque, etc.
Et c'était bien le texte?
Oui, c'est très bien, oui. C'est une histoire, oui, oui. Et donc c'est... C'est la seule fois qu'on a pu faire quelque chose où moi j'amène le projet.
Voyage,
on a fait des choses en performance aussi, ensemble. Hein?
Voyage sonore, c'est vous qui l'avez apporté?
Voyage sonore, oui. Ouais. Oui, oui. Oui, oui, aussi, oui, oui.
Du coup, c'est vous qui l'avez amené.
Oui, c'était de voir l'influence sur ces musiques. Les trois musiciens, nous, on jouait ensemble. J'ai emmené deux amis. Et deux amis, un peintre, sans peinture, et un cinéaste sans caméra, pour voir, et tous les deux très actifs intellectuellement. Et sont pas juste là pour regarder, etc., comme ça. Et donc, on restait ensemble 10 jours, c'était long, quoi. Pendant qu'on faisait le voyage, et on avait un jour et demi, 2 jours à la fin pour essayer de monter ça, oui, et qui continuait les discussions beaucoup, beaucoup. Et c'était ça. Et avec le trio, le projet n'était pas la mienne non plus, c'était le percussionniste qui avait trouvé les moyens pour ça, qui avait fait le côté production, monter la production. Et moi, je les ai proposé de le faire comme ça. Il y avait assez d'argent pour le faire. Ah, les années 80, il y avait de l'argent.
mais France Culture n'a pas diffusé le montage, non?
Je pense pas, non. Non. Je pense pas. À mon sens, il était... Parce que nous, on pensait on a fait une version de à peu près 1 heure, je pense. Ouais. Qui existe et que moi je l'ai pas, j'ai pas une copie.
Je l'ai du coup, je peux
et tout là,
ouais, ouais.
Ah, très bien,
ouais.
C'est Marc Pichelin,
oui, c'est Marc, voilà. Et Kedja m'a dit qu'ils allaient l'éditer,
pour.
Oui, ben, il travaille là-dessus, oui.
Oui, il travaille là-dessus.
Ouais. Il travaille là-dessus, oui. Et donc j'attends ça. J'attends ça. Avec Marc, avec lequel j'ai toujours des contacts, on fait des choses ensemble. On a toujours dit qu'il faut qu'on prenne le temps parce que là, c'est plus de 7 heures. Il y a des heures de musique et de conversation. Et il y a beaucoup, beaucoup que lui, il a toujours soigneusement gardé. Et là, pour éventuellement qu'on retourne. Maintenant, un des musiciens est au Canada. Mais l'autre, Doneda, Michel Doneda, il est avec Kija là, très bientôt, là dans une semaine, je pense.
À Palerme ?
À Palerme, oui. Ah. Donc ils vont pouvoir travailler un peu là-dessus. Mm. Oui, 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 oui. En vue, justement, que ça soit édité. Mm. Mais ça sera édité, c'est principalement pour les photos. Mm. Ce qui serait bien, c'est une belle collection. Des photos et avec un disque, donc oui, qui est très bien, et certainement des textes.
Et oui, dans le montage, on entend la voix de Robert, et à un moment, enfin, je voulais vous le citer.
L'eau, t'as pas besoin de courant pour le...
Non, ça va, ouais.
Ok.
Ouais, ouais.
What is that machine?
Zoom.
Un zoom?
Ouais.
Ah, le zoom, le big one.
Ouais, le H6.
Oui,
ouais.
Oui, oui, oui.
Ouais, ils sont bien, ça va.
Ils sont très bien, oui.
Ouais, pas...
Et si tu veux, un moment, je peux percer.
Ouais, ça va, hein.
Donc, c'est à une demi-heure, à peu près. Du coup, Robert dit... C'est quand vous êtes au marché des Capucines.
D'accord.
Ouais. La mélancolie, c'est partout, ça rôde. Je venais là, se rassembler, faire le point, aller ensemble. Marseille, le marché des Capucines, comme une ombre de quelque chose qui était nécessaire. Nécessité, c'est la fin du siècle, marché libre. Skins, nation, peur, surtout peur. C'est la fin du siècle. Toutes les nécessités sont allées contre un mur. On disait ensemble, Barre et moi... Il ne reste que des os. Le chant des os, Owens, Bonesfield. On essayait de jouer avec ça, jouer musique, jouer film. Alors, je voulais vous interroger sur... Il ne reste que des os.
Oui. Mais que des os écrit comment?
O-S.
O-S. Pas les autres. Oui. Ben écoute, c'est les fondements, les fondations, le squelette. C'était un moment comme ça, quand parce qu'il avait toute une gamme émotionnelle, philosophique aussi, hein, comme ça, qui sont présentes dans ce qu'il fait. Là. Et c'était un moment comme ça, je pense, pas de désespoir, mais de voir la vacuité de ce qui se passait. Quoi. Et pas plus. Ce qui est intéressant, c'était sa perception intellectuellement, mais aussi avec la caméra, avec l'œil, comme ça, qui m'a fasciné, le côté intellectuel d'être ami et d'échanger en amitié, comme ça, des discussions, des choses comme ça. C'est normal, mais entre l'œil et l'oreille, ça c'était fascinant, la chose qu'on a appris de l'un de l'autre, comme ça. Moi, quelque part, je l'ai appris à écouter, et lui m'a appris à voir. Mm. Et donc cette va-et-vient était constant. Il y a une chose que je pense que c'est important, que Robert m'a dit à peu près 2 ans, bon, au milieu des années 90, quelque part là. Voilà, donc, il a dit finalement, je fais depuis, je parle de départ, je fais un seul film. Et c'est tous le même film. C'est un film, c'est pas des films, c'est un film, tout le film. Et j'ai bien compris ça, et dans le sens, parce que je me suis rendu compte là, sur le coup, mais c'est dans la musique, c'est pareil. S'il y a un morceau, quoi, qui est la durée d'une vie de quelqu'un. Et donc, avec ces va-et-vient dans le de la poésie anarchiste politique comme ça, de Robert, était, pour moi, était fascinant. Parce que c'était... c'était le seul militant que j'ai connu dans ma vie longtemps. J'avais connu des militants comme ça, mais un an, deux ans, comme ça, mais 20 ans, et de voir que oh, peut-être c'est juste avec cette personne-là, que c'était pas juste un monochrome de ça, c'était l'interprétation de ce qu'il voyait autour de lui et toutes les injustices, de l'abus de pouvoir et l'exploitation de l'homme et, par l'autre homme. Et tout ça était mélangé avec sa poésie, la beauté de la vie. Et parce qu'on avait, passé des moments plutôt dans le privé que sur le film. Donc, très poétique, comme ça. Et c'est bien, on les voit un peu dans le film aussi, hein, des moments. Il y en a plein qui sont très touchants humainement, ouais, qui peut être n'importe quel cadre, sans raconter l'histoire, le mono-histoire, son histoire, c'est un seul film.
Et si vous dites que, par exemple, que c'est un seul film, qu'est-ce que raconterait ce film-là? De votre point de vue, qui est le point de vue qui est un point de vue très particulier, mais pour vous, qu'est-ce que raconte le cinéma de Robert Kramer, ou le film?
Le film, oui. C'est plutôt un état, un état métaphysique, que des idées politiques ou intellectuelles, comme ça. C'est-à-dire, pour moi, Robert, qui était très intelligent dans le sens d'interprétation de ce qu'il y a autour de lui, et il avait la bonne éducation, il était toujours, sa vie, un grand lecteur, il avait beaucoup, beaucoup de culture qu'il n'exposait pas du tout, comme ça, et cette utilisation de mental dans ce sens-là, dans son travail, et même c'était pas dans son travail, c'était qui est là, chez quelqu'un, qui est présente, mais aussi il y a le côté amour de la vie, et le côté que dans les années 60 aux États-Unis, et ce qu'il était engagé politiquement, militant d'un côté et hippie alternatif de l'autre côté, comme ça, qui on voit un peu dans Milestones, et ça commence à venir dans son cinéma avec Milestones, et cet aspect humaniste, donc je dirais, pour pouvoir des valeurs humaines de basiques de partage qui sont avant les états intellectuels et politiques et organisations sociales, humaniste dans le sens de l'énergie vitale de l'homme, l'échange qu'on peut avoir entre personnes comme ça, qui hors le jeu politique, financier, économique, et social, comme ça, ce jeu-là, la version Robert, c'est son film, pour moi. C'est comme moi, je me rends compte maintenant, à cause des gens qui viennent me voir, qui me parlent et me disent pourquoi ils viennent, comme ça, il y a quelque chose qui se passe, qui est au-delà de la technique, la couleur, le choix de qu'est-ce que je vais jouer, etc., qui est dans ce que j'ai fait, musicalement, comme ça, qui touche les gens. Et là, c'est ça, ma chanson, c'est Bar. Le film de Robert, c'est Robert. C'est lui. C'est lui, son film. Oui.
Et chez lui, il y a une forme de mélancolie, non? Ou peut-être dans les années 90, mais dans ses écrits, il y a beaucoup de choses sur le fait qu'on devient de plus en plus égoïste, seul, que le tissu social se désagrège, qu'il y a une séparation avec la politique, dans les familles. Je ne sais pas s'il en parlait avec vous de ça. En 95, là, dans ses archives, je suis allé... des petites notes qu'il prenait, il disait « Monde où on vit, l'individu se sent isolé dans un état qui fait plus beaucoup de sens, entouré d'informations qui ne s'organisent pas, une vie sans sens, sans projet comme sans histoire, sans projet social, individu égoïste, seul, narcissique. » Un constat un peu
amer,
je sais pas. Est-ce que ça c'était quelque chose que vous ressentiez ou
non? Je j'ai jamais vu ça chez Robert Melconi pour le passé, quand les choses étaient un peu plus humaines, etc. Ce qui m'a frappé beaucoup, c'est que qu'il est parti jeune, comme ça. Parce que, et avec Erika aussi à l'époque, parce que là, pendant qu'il était, ses 10 jours à l'hôpital avant qu'il meure et tout ça, on avait échangé beaucoup. Moi, je ne suis pas allé, mais on a parlé beaucoup. Et là, j'ai travaillé aussi beaucoup pour lui, donc de mon côté, comme ça. Et je pense qu'il a décidé de partir. Quelque chose dans la chose, il avait fait ce qu'il avait à faire et qu'il ne voulait pas continuer. Il ne voulait pas devenir un vieux, il ne voulait pas devenir un professeur, quelqu'un de son époque. Il voulait passer à la prochaine chose sans savoir qu'est-ce que c'est. La maladie qui est venue, etc., ben c'est beaucoup à dire. C'était pas un suicide, c'est pas ça, mais Vincent, elle a... parce que Robert était quelqu'un qui avait beaucoup de volonté quand il voulait. Par exemple, c'est avec le tabac. Le tabac, cette horrible drogue
chère
qui existe. Bon, ça, c'est du tout de la mélancolie pour, mmh. Pour la clope, donc, quand c'était pas cher. Et le pain, non. Il pourrait arrêter de fumer, de dire, bon, ça suffit avec ça, et c'est arrêté. C'est arrêté. Bon, on a ouais. Deux ans comme ça. Donc, ouais. C'était comme ça avec beaucoup, beaucoup de choses dans sa vie, pour, personnellement, comme ça, du régime, de ceci, de cela. Il avait la possibilité, la force avec lui-même de dire ouais. Ça. Non, boum,
très, très martial. Enfin, il avait fait de l'aïkido, des arts martiaux, justement.
Il l'avait fait, oui. Ouais. Il l'avait fait. Il connaissait très bien.
Il travaille sur la question de la volonté, du mental.
Ce monde-là, oui, oui, oui. Il n'était pas pratiquant tout ce temps-là, oui. Hein, mais il n'avait jamais oublié. Ça, c'est clair.
Il devait travailler beaucoup aussi, non, Robert? Ça devait être quelqu'un qui travaille beaucoup? Non?
Dans quel sens?
Qui est tout le temps en train de réfléchir, de penser à ses films, à des choses, non? Ou il avait des moments de...
Non, il avait des moments de... Oui. Non, c'était pas un forcené de...
Non, j'imaginais quelqu'un qui était...
Non, obsédé. Ouais. Avec ça. Non, il arrivait très bien. Là. Pas pour longtemps, mais...
Ouais. Oui, mais il y arrivait.
Oui, absolument. Oui,
mais il arrivait dans...
De lâcher la préoccupation du moment. Oui, parce que il y a toujours les préoccupations quand on est dans cette position-là. Il y a si c'est dans le travail, c'est dans le travail. Si c'est après le travail, c'est trouver le prochain.
C'est tout le temps. C'est une question de volonté aussi de s'arrêter.
Par exemple, quand il... je ne peux pas le situer dans la chronologie, mais quand il était obligé pour trouver l'argent de production, d'avoir un scénario. Bah, c'était fini d'aller voir les gens qui connaissaient, qui pourraient produire, et de dire l'idée comme ça, en connaissant comment ils travaillent. Mais non, il faut... Ouais. Je ne sais pas si c'est Richard Coppens ou qui...
C'était à partir de quand qu'il a dû écrire ces...
Walk the Walk est écrit.
Ouais, Walk the Walk est écrit. C'était de la Plaine aussi. Ses derniers films sont écrits, mais c'est vrai que... Wout One, je crois que c'est 7 pages, quoi. C'est pas tellement écrit, quoi.
C'était improvisé.
Ouais, c'est ça qui...
Et le... Et donc, il a dit... il n'a pas passé de temps à dire merde. Il s'est mis à inventer l'histoire, tout en sachant que le jour que tu vas tourner, c'est pas forcément ça. Mais donc d'écrire des dialogues et tout, comme ça. Oui, c'était il n'avait pas travaillé comme ça. C'était intéressant, même avec Ruth One, c'est la première fois qu'il prend la caméra. Et ça a été à cause de les 10 ans qu'on avait passé ensemble et qu'il a dégusté l'improvisation, qu'est-ce que c'est, et de voir les implications pour ça, pour faire des films. Quoi. Mm. Donc, mais pour faire ça, il faut prendre la caméra. Mm. Et
il a été influencé par votre manière de travailler, la musique
Oui.
Ouais.
Oui. Yeah. Il a dit même dans quelques articles.
Vous trouvez qu'il y avait une liberté dans la manière. que vous aviez d'aborder la musique, il voulait retrouver ce geste artisanal.
Il se rendait compte que sa façon de lire le moment, etc., en tournage, etc., c'était de l'improvisation. Et donc, il savait pas trop comment situer ça. C'était juste une façon de travailler, quoi. Et dès que c'était possible de plus objectiviser comme ça dans un processus de cohérent. Comme ça, il a pris goût très, très fort. Et donc, c'est bien, bien présent, une Wout One.
Et vous, par rapport à votre pratique, vous direz que l'improvisation, elle se situe où C'est quelque chose de l'émotion, de du corps qui parle, de comment ça, qu'est-ce qui fait que elle arrive l'improvisation?
C'est la lecture du présent, au lieu d'essayer de former le présent, de lire qu'est-ce que c'est.
Du coup, on lâche le mental alors. On lâche l'intellectuel, non?
C'est dans tous les sens. C'est tout dans tous les sens. L'acte de composer, c'est de imposer quelque chose sur le présent. L'improviser, c'est la lecture du présent en ce moment, le moment de présent. Et pas que moi j'amène avec un produit pour changer le présent. Donc je prends le présent et je le fais vivre d'après ma manière, d'après une manière collective, avec tout ce qui participe à ça. Parce que là, c'est pas grand-chose tout seul. Oui. Je veux dire, même un concert improvisé en solo, comment j'en ai fait. Mais je ne suis pas seul. Il y a tous ces gens-là qui écoutent. Il y a le lieu.
Qui regarde.
Oui, c'est un tout. Oui. Et c'est de faire quelque chose avec le présent,
La
ce moment-là.
lumière,
C'est
la chaleur.
pas présenter mon produit. Oui. Bon, en gros, hein, c'est.
Et dans les expériences de performance que vous avez faites avec Robert, c'était
Oui.
aussi cette question du présent qui était en. Il y en a eu plusieurs, non, à Strasbourg.
Oui, avec Sarkis,
Ouais.
à Paris, avec Sarkis aussi, avec
Pour Kobe aussi, non?
ici à Digne, festival de films. Je me souviens plus,
Kobe,
mais.
non, il n'y avait pas suite au tremblement de terre, il n'y avait pas des choses que vous
Où
aviez
ça?
à l'Alhambra, à l'Estaque, non?
Oui, peut-être, je me souviens plus là, je me souviens plus, oui.
Et c'était quoi ces performances alors? C'était ils filmaient en direct, c'était retransmis sur l'écran, et vous improvisiez?
Brignoles, voilà un autre qu'on a fait à Brignoles. Oui, avec Sarkis par exemple, c'était une chose. C'était des propositions de Sarkis lui-même, les deux fois qu'on a joué ensemble. L'un était à Strasbourg, c'était marrant, c'était un garage Mercedes qui était désaffecté, il n'y avait plus Mercedes là, qui était acheté par la ville ou l'État ou je ne sais pas quoi, pour faire je pense, un collège ou quelque chose pour l'architecture en école, quoi. Et c'était des préfigurations de faire des actions culturelles là-dedans, que ça qu'ils savaient, on avait 4 ou 5 jours dans les lieux, comme ça, où on dormait dans le lieu, on mangeait dans les lieux, comme ça, on restait dans ce garage désaffecté, comme ça, 3 étages, quoi. Ils avaient des gros ascenseurs là, pour monter les voitures dans la hauteur et tout ça. Et donc, une installation, il y avait les moyens pour une installation sur. Robert était installé sur 2 étages avec le câblé. Hein, c'était pas HF de tout. Et là. Câblé avec les retours pour le public, comme ça, 3 ou 4 par étage, comme ça, placés dans des endroits différents. Moi, j'étais en HF, donc j'étais mobile. Il y avait une centrale de diffusion, comme ça, avec deux techniciens. Sarkis avait un chariot, il avait un Nagra, il enregistrait des choses. Et le Nagra, il faisait 20 minutes, le vieux Nagra mono, quoi, les bobines de 20 minutes. Et avec les 20 minutes, il enlevait la bande et il sculptait avec. Et il donnait aux gens des perruques en bande comme ça. La logique, voilà, ouais. La musique à écouter. Sarkis, il m'a enregistré, il a enregistré Robert. Robert tournait, donc aussi, mais câblé. Hein, câblé.
Donc en vidéo, alors, il tournait.
Oui, oui, oui. Yeah, yeah, yeah.
C'était, il tournait, c'était...
Oui, 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 avec une diffusion directe, comme ça. Et là, je ne sais même pas si c'était enregistré aussi. J'ai pas de souvenir qu'il y a dans les archives de ça. C'est-à-dire ce qu'il filmait, il avait... Oh, c'était un nouveau caméra.
C'était les années combien? C'était 80? La paluche?
C'était dans les années 80, je pense.
Non, c'était une grosse caméra.
Ah oui, les grosses caméras humaines.
Non, il avait une caméra dans la main.
Ah, bah c'est la paluche,
comme ça.
Ah oui, c'est la paluche.
La paluche.
En noir et blanc?
Paluche,
Jean-Pierre
Bourgala,
oui. Ouais.
C'était nouveau.
Ouais, tout nouveau. Ouais. Caméra point. Au point.
Oui, oui, oui.
Ouais, ouais.
Oui, oui, donc il était, c'était capable d'aller comme ça avec tout, et même sans regarder ce que tu faisais, toi, forcément, toi. Ouais. Donc il était resté pas devant un retour pour voir de tout. Et je pense qu'il y avait deux jours de performance, donc avec public, mais pas... Ah oui! Non, il y avait un 24 heures. Ah oui, il y avait un 24 heures. Ah, ouais. Oui. Yeah. Et avec Sarkis à Paris, c'était marrant comme tout. Là. C'était, il nous a invités tous les deux à refaire avec lui. C'était une exposition pour lui. C'était au musée de... C'était pas à Pompidou, c'était avant Pompidou, au musée d'art moderne, sur l'étage principal. Et là, il travaillait aussi avec la bande, beaucoup avec la bande. Et il avait toutes les opéras de la deuxième école de Vienne, donc Schoenberg, Berg, aussi des choses où il y avait le chant de Webern, enregistré par Boulez, et dans des copies avec un quart de pouce, comme ça, de la bande, il avait de la bande, mais c'était des couleurs un peu différentes, c'était pas la même marque de bande, dans des 5 ou 6 marques différentes, donc. Et son exposition, donc sous les surfaces, comme ça, il dessinait avec la bande. Et c'était aussi un truc à écouter. Écouter les œuvres sont là, il faut les écouter. Et lui, il dessinait avec le. Mais ils étaient fixés sur le. C'était pas en live qu'il le faisait. C'était. Je sais pas comment ils ont fixé, mais la bande était comme ça, sur les murs, mais énorme, des énormes trucs. Avec des bobines, comme ça, de la bande. Et donc on arrive et il dit, ah, bar, c'est dommage, tu peux pas jouer là, parce que là, tu peux pas jouer parce que ça va gâcher complètement mon truc. Je veux que tu participes, mais démerde-toi, savoir comment tu vas faire. Et donc, dans le musée, il y avait un ascenseur et l'étage inférieur, comme ça, était une espèce de théâtre. Et donc, quand on a vu ça, moi j'ai invité une danseuse magnifique, comme ça. Nous, on a joué en duo en bas, sans public. La durée de vernissage, 2 heures, comme ça.
Sans public?
Sans public, oui.
Pourquoi?
Parce que moi, pour que Robert il puisse filmer.
Ah.
Et moi, j'ai enregistré. Et là, c'était mes... Et donc Robert, par l'ascenseur, il passait, filmait, mais il n'y avait pas de diffusion. Peut-être ce qu'il faisait. Ça aurait été aussi gâché le truc de Sarkis. Donc lui, il a filmé, et ensuite il descendait et nous filmait en duo.
Et ça a été montré quelque
comme ça. Et moi, j'ai continué. J'ai fait 1 heure, une pause, et une deuxième heure. le temps de vernissage, comme ça. Robert, il n'a pas filmé tout le temps. Et ensuite, on est allé directement chez Robert et il a monté. On a passé la nuit ensemble, lui et moi, monter le tout. Comme ça. Donc ça, ça existe. Mais je pense que j'ai le même. Et parfois, dans des shows, après de Sarkis, il montrait le film. Oui, comme partie de son exposition.
Ah oui,
voilà. Oui.
Facile.
Je me souviens des photos de ça, oui. Ah, c'était très stimulant de travailler avec des bons fous. Ouais. Des fous avec du talent.
Et oui, oui.
Oui, yeah.
J'ai entendu un documentaire sonore sur Voyage Sonore qui a été fait par Alexandre Castan, qui était à Montpellier, qui est venu 3 jours, je pense, pendant le Voyage Sonore, pour faire un documentaire sur votre expérience sonore. Je sais pas, enfin, il m'a envoyé le CD, du coup j'ai écouté. On entend, il y a des entretiens avec.
Oui, il y avait une exposition avec une partie des photos. Et moi, je suis passé par là. Il y avait justement interviewé. Je ne me souviens plus. Je ne pense pas que j'ai joué.
Et dans l'entretien, Robert Kramer dit « Comment faire des images qui vont avec des sons? La danse entre ces deux choses est prometteuse d'un pouvoir, d'une résistance très importante. Parce que cela permet des courts-circuits, cela permet par exemple de bloquer certaines directions de l'image et de suggérer que telle image va par là et par là. Autrement, le son peut ouvrir le fond d'une image et une image qui est assez plate devient ainsi extrêmement suggestive. On capte une chose de manière beaucoup plus riche en éloignant le son de l'image. C'est un terrain extrêmement important et particulièrement parce que le son coûte très peu dans le domaine du cinéma. Cela coûte infiniment peu comparativement aux images. Bon, alors, c'est la musique, ça coûte quand même.
Oui, non, il parle du son.
Il parle du son.
Parce que son travail avec Olivier, par exemple, il était. C'est pour ça qu'ils travaillaient autant ensemble, le sound off que Olivier prenait, etc., était très important pour Robert. Et et Olivier, il savait très bien ce qui le fascinait, des gros sons.
Des gros sons, c'est-à-dire
Oui, par exemple, là, en Route 1, donc, il y a des choses de port où il y a les gros les conteneurs, les bateaux, etc., comme ça, avec des énormes sons comme ça. Ça, c'est Olivier quoi, qui avait chopé ça. Et là, sans que... Moi, je n'étais pas sur le tournage, mais il était tout à fait conscient. Ça m'étonnerait que Robert était obligé de lui dire « Et ça, on a besoin de ça. Hein. » Et par exemple, Robert, il mixe des sons comme ça, démesuré dans la chose. Et ça, c'était nouveau aussi, après qu'il a commencé à travailler avec la musique, tu vois, de cette importance du son, et la vie dans les choses du son. Où le son commençait à prendre une importance pour lui. Je me souviens avec Notre Nazi, par exemple, qui était une histoire assez sordide de production et tout, et qu'ils sont arrivés à faire une version en 35, et ils avaient une diffusion à Paris dans une salle, et j'étais à Paris à l'époque de ça, et j'étais très content de pouvoir y aller le voir, parce que c'était... Robert n'avait pas terminé le film, c'était... le monteur Yasha Jensky et moi qui avaient fini le film, fait le mixage et tout ça. Robert, il ne pouvait plus, il est parti.
il n'en pouvait plus.
Non.
C'était trop dur.
Non, mais c'était très une histoire très bizarre avec Thomas Arland et leur partenaire comme ça. Et Robert avait... assez craqué par la chose, et finalement lui il est parti aux États-Unis avec Erica et Kija. Il a dit bah, vous finissez le film, vous faites le film, c'est très bien, j'ai pu faire un mixage sans Robert. Oui.
Il est très fort ce film.
Et donc là, c'était après, ils ont fait un télescopage, je pense ils appellent ça, de vidéo pour avoir un 35, et ils l'ont diffusé en théâtre, comme ça, et donc je suis allé dans le cinéma, comme ça, et Robert avait réglé le son, et c'était insupportable.
C'était trop fort.
Oui, c'était trop fort.
C'était pour se venger. Il voulait que personne ne reste dans la salle.
Non, les gens, très bien. Lui était très bien, peut-être il était un peu sourd. J'ai jamais pensé à ça avant, mais peut-être il devenait un peu sourd.
C'est vrai qu'en tant que cinéaste, on ne fait jamais beaucoup attention à nos oreilles. C'est vrai, on n'a pas cette habitude-là. Mais c'est vrai que moi, j'ai des amis qui ont perdu de l'audition et qui s'en sont rendus compte parce qu'on leur disait qu'ils écoutaient fort leur film.
Oui. Et le fait qu'il ait demandé d'avoir une basse. Enfin, l'histoire avec Juliette Berthaud, pourquoi une basse alors ?
Aucune idée. Ouais.
Parce que le son du bateau, c'est aussi une basse, non ? C'est.
Oui, peut-être.
Mais c'est vrai que.
Pourquoi il avait la grave ? Ouais. Si c'était une question de grave, les fréquences graves.
Mais c'est vrai que c'est étonnant, c'est que maintenant, c'est une contrebasse que vous jouez. Comment ? C'est une contrebasse, votre instrument, oui. Quand on entend ce son-là. On pense, moi en tout cas, je pense au film de Robert Kramer. Enfin, c'est très associé. Ouais. Enfin, tout de suite, il y a une teinte.
C'est intéressant ça.
Et je Ouais, je pense que y a, quand vous dites que vous avez essayé de retranscrire votre émotion du film, ben, c'est ce qu'on ressent complètement. C'est que du coup, quand on entend ce son là il y a
de l'émotion,
il y a de l'émotion. Ouais, c'est, je sais pas pourquoi la contrebasse donne ça, je saurais pas dire pourquoi.
Ça dépend du contrebassiste.
Oui non, ça dépend du contrebassiste, ça c'est sûr.
Pas toujours comme ça,
non, c'est pas toujours comme ça, c'est clair.
Mais en tout cas, la... peut-être ce que vous avez apporté, c'est une forme de lyrisme, non
Oui, oui, c'est que il y avait un côté dans le dans le lexique de Robert de nostalgie, la qualité de son quand il y avait des moments de surtout le contrebasse seul dans les films comme Yana, des moments comme ça en Walk the Walk par exemple, et le, donc plus certainement plein d'autres, mais ça vient à la tête comme ça. Et le, et lui, il ça lui au niveau de avoir un adjectif de qualification de toi, là, ok, moi je peux accepter ça, mais ça, c'est pas, c'est ça qui sort, quoi, c'est ça qui sort de moi. Si c'est le nostalgie, la nostalgie, normalement c'est pour quelque chose. Et là, c'est comme la mélancolie, oui, dans le vocabulaire habituel, mais le, oui. Mais c'est pas la tristesse non plus.
Non.
Oui. Et donc, là, c'est intéressant. Comment on va appeler tout ça?
Ouais, ouais. Ouais,
c'est ça. Et là, mais ça, c'est bien d'une autre génération, donc le vôtre, et de avoir ça dans ces moments-là, dans l'image de Robert, où il y a le son de la contrebasse, comment ça fait une chose, quoi, quelque part. Ou une partie d'une chose, voilà. Et ça c'est pour moi c'est une réflexion que je trouve intéressante. Yeah.
Et par rapport à, au fait qu'il était juif, est-ce qu'il était touché par de la musique traditionnelle juive par exemple ou pas?
Lui?
Oui.
Je pense pas.
Non.
Non. Non, j'ai trouvé ça nulle part.
Nulle part, ouais.
Non.
Et dans l'histoire, je connais pas trop la musique juive, mais est-ce que la contrebasse, elle a un rôle ou pas?
Non.
Non, pas du tout.
Non.
Parce que dans votre... Enfin, en tout cas, dans les films de Robert Kramer, dans la contrebasse, je trouve qu'il y a quelque chose un peu de sacré. Enfin, en tout cas, moi, je le ressens comme ça. Qui me ramène dans une histoire plus grande. Enfin, il y a... Ou alors, je sais pas, de dire... si ça serait, c'est ça la question de la métaphysique, mais ça me raconte une histoire au-dessus du social, quoi, comme un mythe ou je sais pas, ouais.
Tiens, bah, très bien, ça marche notre truc. Je ne sais pas fait pour, mais c'est comme ça. Et peut-être lui aussi il sentait quelque chose comme ça, mais qu'il n'a jamais voulu de discuter de ça, parce que là, ça marche tout seul, quoi. Mm. C'est pas quelque chose que tu peux cultiver, à mon sens. Mm. Oui, c'est juste la personne est comme ça, quoi. Mm. Oui. C'est comme... Mais il aimait beaucoup aussi travailler en équipe. Donc, les années quand il y avait un peu de... Avec la... À toute allure, donc pour la télé. Après ça, est venu le Diesel. Et oui, je pense que c'était le projet après, oui. Et donc, il avait formé. Là, ça faisait le moment quand il y avait avec Olivier, il y avait des autres personnes. Excusez-moi,
non, allez-y.
Ma femme. Yes, Mary. Yeah, we're still there. We're still there. Yeah. Oh, you're back.
Charles, touche le son, je trouve.
T'as des questions, toi?
If you wanna try, yeah, you just come in. There's no problem. Yeah. Just do it you like. Super. Okay. Il arrive. Et donc, à la... Oh, je l'ai perdu, la question. De quoi j'allais parler?
Du côté sacré, mystique.
Non, là, c'est, vous parliez qu'il aimait travailler en équipe.
Ah oui, voilà.
Du coup, après toute allure, il y a eu Diesel.
Yeah. Et donc, qu'il y avait quelqu'un pour les costumes à ce moment-là, je ne me souviens plus, quelqu'un pour le décor aussi. Et quand, avec les sœurs, il avait négocié pour Diesel, et il a insisté que ce soit son équipe quoi, que travaille comme ça. Ils étaient d'accord.
Quelque chose de la famille quoi, qui était importante.
À ce moment-là, oui. Il était bien, bien important parce que c'était possible. C'était possible. Finalement, les sous dans le cinéma français viennent le chercher, donc il peut être un peu exigeant quand même. Hein.
Et s'entourer.
Oui, mais ça ne marchait pas du tout.
Vous avez compris à quel moment le projet Diesel, il a un peu perdu le contrôle ou c'était...
Well, c'est-à-dire, par exemple, les filles de Vera, comment elles s'appellent, j'ai même oublié le nom, de filles, de femmes qui avaient la production de ça. Enfin, j'étais... J'étais convoqué pour avoir un rendez-vous avec elle, pour qu'elle accepte que je sois le musicien qui fait la musique de film. En plus, bon, le côté faire le son, ça va, ça c'est pas un problème. Et pour faire le musicien. Et je vais, je dis bonjour comme ça, des gens que je connais, dans un bureau, comme ça. Et vous savez, nous, on veut faire un film pour des idiots et des jeunes ados, vous êtes au courant, vous pouvez faire la musique comme ça. Ça, c'est un peu difficile pour ouvrir une négociation comme ça.
C'est elle qui vous dit ça.
Et après, quand j'ai commencé à la... Non. Ce que je pensais faire, avec qui elle travaillait, etc., c'était d'autres créateurs dans le contemporain, comme ça. Non, pas question. Pour dire qu'à la fin, ils avaient payé pour la musique et ils ont mis dans la poubelle, ils ont remonté le film, ils ont volé le film de Robert. Ils ont pris un Italien pour le remonter. Ils ont pris de la musique pop au maître, comme ça, pour remplacer beaucoup des choses que j'ai fait. Pas tout, mais pas mal de choses comme ça. Les longs moments, quand il y a de la musique, ça fait yé-yé. Et pour les idiots, et comme elles souhaitaient avoir. Comme ça, en payant plus. Pour faire un film qu'ils ont sorti mi-août.
Mi-août.
Oui, faut que ça joue deux fois et basta, quoi.
Ouais.
Scratch.
Ça, l'histoire.
Oui. Mais c'est très bien, ce film. Donc ça, Robert, il aurait pu faire procès parce que la loi, le réalisateur, auteur, comme ça, il a les droits, quoi.
Lui, on n'est pas au state, quoi.
Oui, il aurait pu, mais il ne voulait pas rentrer là-dedans, etc. Il a... Mais c'était...
Et c'est après, Doc Kingsdom, c'est après, alors ?
Oui.
Et ça, c'était une expérience intéressante ?
Oui, je n'ai pas fait le tournage quand je ne suis pas parti avec eux, etc. Et oui, c'était intéressant, oui. Donc, j'ai travaillé à partir de montage, oui, comme ça, en vitesse. Ayant pensé avant et travaillé avant, comme ça, des choses. Et j'utilisais des instruments expérimentaux, un peu expérimentaux. Avec des musiciens un peu expérimentaux tout aussi. Mais là, c'est pas trop contemporain, mais quand même, c'est un peu différent. Non, c'était bien. Et ça collait, ça roulait. Il n'y avait pas ces problèmes. Et il retrouvait son histoire donc de Route One, tu vois, de pouvoir continuer. Avec le copain.
là, on parlait de Cité de la Plaine, et pour elle, elle pense que c'est un film autobiographique de Robert. Je sais pas si vous, qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense, oui. Ouais. Je pense dans cette chose qu'il arrive à la fin et qu'il est temps de partir. C'est une espèce de signature, quelque part. Moi, j'étais. J'avais très mal à faire ça. Il a très mal une fois que c'était fait, il a monté, etc. Bon, c'est Richard qui s'en occupait, copain, ça faisait beaucoup. Et on est allé le voir à Cannes, c'était dans une des offres dans le festival. J'ai détesté, je trouvais ça horrible.
De quoi le.
Le film, quoi, oui. Je n'avais pas du tout, je trouvais pas la finition, de finir le film, je trouvais pas ça du tout dans l'esprit de Robert. Et comme j'avais vu avec les roches et tout ça. Et mais c'est comme ça. C'est comme ça. Oui.
Et pourquoi alors, si c'est autobiographique, pourquoi il devient aveugle?
Pourquoi?
Ouais. Et dans l'histoire, il devient aveugle. Et Robert, pourquoi? Et parce que cette figure de l'aveugle, dans Ghost of Electricity, devient aussi aveugle, je crois.
Le
Ghost of Electricity, le film qu'il a fait...
Celle-là, je ne le connais pas.
Ah ouais. Ouais, il est bien, il est très bien. Mais il parle du futur des images, qu'on aura une puce et qu'on branchera directement les images dans le cerveau.
Et...
Okay. Non, mais qu'un cinéaste se voit comme quelqu'un d'aveugle, c'est quand même... c'est pas anodin. Ouais.
Moi, je trouve ça bien de sa part de dire finalement, j'ai rien compris du tout. Mm. J'ai fait mon travail, mais j'ai fait rien du tout. Quoi. J'étais aveugle, j'ai pas vu clair. Mm. Pour moi, il a vu beaucoup de choses claires, mais s'il dit ça, c'est parce qu'il dit finalement, en fin de compte, j'ai pas vu clair du tout. Mm. Mm. Yeah, ça c'est beau.
Voilà, c'était une émission avec Barthe-Philippe, compagnon de route de Robert Kramer, compositeur de la plupart des musiques et des bandes-sons des films de Robert Kramer. On était avec David Dion pour une émission en quête de cinéma sur Radio Galère 88.4. Vous pouvez écouter les émissions qui sont toutes podcastées sur dérive.tv. On se retrouve lors d'une prochaine émission. C'est les lundis, premier lundi de chaque mois, tous les deux mois, à 21h30. Bonne soirée à vous. À bientôt.